5. Allez-y, madame. Mettez votre enveloppe dans l'urne. À voter.
François Mitterrand.
Petit précis d'histoire à l'usage des politiques.
Pierre Destin.
Vous comptez les deux registres.
François Mitterrand. Est-ce qu'on fait dans les épingles?
Non.
Oui, mais pour les recompter après. Un Lassin et on met plus lourd. D'accord.
Ça fait 7 Pierre Destin. Il est 20h, le scrutin est clos.
Bonjour Pauline Peretz.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférence à l'Université de Nantes. Vous êtes rédacteur en chef de la revue en ligne La Vie des Idées et grande spécialiste de l'histoire des États-Unis. Et quand je vous ai dit sur quoi pouvez-vous plancher sur cette question, un petit précis d'histoire à l'usage des candidats, vous avez pensé à ceci.
Le citoyen législateur, sagesse ou inconstance ? Que pouvons-nous lorsque les élus nous déçoivent, lorsqu'ils nous semblent trop frileux, sous influence, ou qu'ils ne font pas ce que nous attendons d'eux? La plupart d'entre nous attendent les prochaines élections pour sanctionner les représentants qui les ont déçus et voter pour un autre candidat. Mais dans les systèmes politiques où existent des formes de démocratie directe, le citoyen peut se faire législateur. Depuis le début du XXe siècle, les citoyens américains peuvent, dans certains États, utiliser le droit d'initiative. Ce mécanisme a été imaginé par les progressistes pour redonner au peuple le pouvoir qui lui aurait été confisqué par des assemblées corrompues. La Californie est un de ces États où les citoyens peuvent concevoir un texte de loi et le mettre au vote. Ce mécanisme d'initiative populaire a notamment permis, en 1978, l'adoption, la proposition 13, qui a donné l'impulsion à un mouvement national de résistance à la fiscalité, ou, plus tard, l'adoption de la proposition 187, qui a privé les immigrés clandestins de leur accès à l'éducation et à l'aide sociale. L'initiative est-elle donc l'expression privilégiée de citoyens en colère contre un État jugé excessivement libéral ? Pas nécessairement. Au début des années 70, la Californie n'est pas encore cet État du populisme revanchard dont beaucoup de commentateurs politiques et d'historiens ont ultérieurement imposé l'image. Après quelques décennies de sommeil, l'initiative y renaît lorsque s'achève un cycle politique dominé par un exécutif fort, rappelons notamment le gouverneur Ronald Reagan. L'initiative renaît aussi parce qu'apparaissent de nouvelles questions qui divisent les élus, la protection de l'environnement, le gel du nucléaire, la réforme de la fiscalité ou la moralisation de la vie politique qui m'intéresse ici. En 1973, le pays est secoué par le scandale du Watergate, qui est aussi l'occasion de révéler de nombreux scandales financiers. Au Congrès, des textes de loi sont introduits pour mieux encadrer les campagnes politiques. En Californie, deux organisations citoyennes veulent moraliser la vie politique locale en, je les cite, « nettoyant le gouvernement ». La première, le People's Lobby, s'engage d'emblée dans la voie de l'initiative. Elle ne croit pas à la détermination des élus à mener à bien une telle réforme. La seconde, Common Cause, veut laisser une chance à la législature. Mais face au blocage dans les assemblées, elle se laisse convaincre que c'est aux citoyens de conduire cette bataille. En septembre 73, les deux organisations font alliance pour rédiger le texte d'initiative qui prévoit la limitation des dépenses de campagne, la création d'une commission de contrôle des comptes et l'encadrement des activités des lobbyistes. Pour que le gouverneur autorise la mise au vote populaire de cette initiative, ses auteurs doivent obtenir 320 000 signatures d'électeurs. La collecte de ces signatures est la démonstration d'une force politique, mais aussi d'une capacité d'organisation. Les volontaires vont voir leurs voisins, leurs collègues, leurs amis pour les convaincre de signer le texte. Le People's Lobby dispose des tables devant tous les centres commerciaux et harangue les passants pour leur demander de signer. Vous voulez arrêter la corruption en politique ? Vous voulez mettre un terme aux dépenses excessives de Sacramento ? Le Political Reform Act y contribuera. Signez-le. Les volontaires récoltent 500 000 signatures. L'initiative est donc qualifiée et le texte va être mis au vote des électeurs en juin 1974. Le citoyen californien est invité à se prononcer dans un vote de nature référendaire. Veut-il, oui ou non, que ce texte devienne loi ? Le People's Lobby et Common Cause organisent sur le terrain une véritable campagne politique pour convaincre leurs concitoyens d'aller voter. Ils martèlent leurs convictions. Proposition 9, c'est le nom de cette initiative, est un effort pour mettre un terme au secret au sein du gouvernement et pour remettre le gouvernement aux mains du peuple. Et ils convainquent massivement. Le 4 juin 1974, 90% des électeurs se présentent aux urnes. C'est énorme, aux États-Unis encore plus qu'ailleurs. 70% de ces électeurs votent en faveur de ce texte. Grâce à un soutien populaire très fort, le Political Reform Act est donc adopté et régit dès lors la vie politique en Californie. À chaque étape de l'initiative, rédaction, qualification, vote, le corps citoyen s'est élargi. La mobilisation sociale s'est muée en force politique. Les citoyens ont pris conscience de leur responsabilité dans la détermination de la politique de l'État. L'initiative a également permis de contourner le blocage des institutions représentatives. A-t-elle pour autant contribué à éduquer les électeurs ? Ce n'est pas sûr. Mais ce n'est pas cela qui amène aujourd'hui à douter de la légitimité de l'initiative. Depuis la fin des années 70, la collecte de signatures est réalisée par des cabinets qui facturent toujours plus cher leurs services. Seuls les groupes d'intérêt organisés disposent des millions de dollars nécessaires à cette collecte. Dans ces conditions, est-ce vraiment la voix du peuple que fait entendre l'initiative ? Il va falloir regarder de près quelles mesures seront adoptées en Californie et dans d'autres États le 8 novembre prochain.